Let's kill all the lawyers.
Les in et les off de Droit en scène, saison 5 par Emmanuel Saulnier-Cassien. Droit en scène poursuit sa cinquième saison au Festival d'Avignon avec un troisième épisode consacré à des spectacles venant interpeller le législateur. Avant de plonger totalement dans cette nouvelle thématique du législateur interpellé, il convient de faire un lien avec les deux premiers podcasts consacrés à la justice, grâce à la pièce de Lorraine de Sagazan qui se joue au lycée Aubanel. La metteuse en scène propose en effet, dans Léviathan, une réflexion stimulante sur le système judiciaire français qu'elle étrille en pointant l'inadéquation de sa procédure pénale, en particulier celle des comparutions immédiates, prenant appui sur des cas réellement jugés, servant d'archétype à sa démonstration, qui se veut implacable et d'une certaine manière didactique, avec notamment l'intervention d'un témoin, mais aussi onirique, en faisant une large place à la dimension rituelle, voire liturgique, et à la symbolique, ce qui la distingue des œuvres dramaturgiques précédentes qui se sont intéressées au sujet du type de la pièce qui avait été créée au Théâtre du Rond-Point et écrite par Dominique Simoneau, ainsi que le célèbre texte de Jean-Pierre Vincent monté à Strasbourg, Palais de Justice. En l'occurrence, le spectacle de Lorraine de Sagazan vient bien à la fois solliciter la justice et interpeller le législateur sur des réformes nécessaires afin de compléter la réponse pénale actuelle par des systèmes alternatifs qui sont qualifiés de justice transformatrice ou justice réparatrice, option particulièrement pertinente au regard de la place faite aux victimes dans les quelques exemples existants. La metteuse en scène ne développe pas à proprement parler la question des victimes, voire même l'écarte, ce qui fera peut-être l'objet d'un travail ultérieur, mais elle pousse incontestablement les juristes à la réflexion sur l'urgence et la nécessité de faire avancer les réflexions sur ces solutions alternatives dans une société qui a des attentes en partie contradictoires d'ordre, de sanctions et de réparation.
Elle a les yeux bandés. D'une main, elle porte une balance. Deux plateaux vides qu'elle tente de maintenir à l'équilibre. De l'autre main, elle tient un glaive. Elle s'appelle Justice. C'est curieux comme symbole quand on y pense. Le bandeau, c'est l'impartialité. S'aveugler pour être clairvoyant. Se voiler la face pour mieux discerner. On dirait une image du déni. La balance, c'est l'équité. Le même traitement pour tout le monde. Ça s'appelle un vœu pieux, mais moi, je suis devenu athée. Le glaive, c'est la force. Il est là comme une menace, prêt à trancher. Normalement, le port d'armes de catégorie D est interdit dans l'espace public. C'est sûr, donner l'exemple, c'est difficile. Dans un tribunal, ça se passe comme sur une scène, par procuration. Des gens représentent d'autres pour leur donner tort ou raison. Ils le font avec plus ou moins de talent, de conviction ou de grâce. Dans un temps imparti, il faut bien l'utiliser ce temps, l'optimiser, être efficace. La justice en France, elle sait faire ça. Elle n'est pas toujours lente. Elle est capable de faire vite, de trancher sans délai. Ça se passe pendant les audiences de comparution immédiate. Elles sont publiques. Mais il y a beaucoup moins de monde qu'ici. La salle, souvent, elle est vide. On se demande si c'est le spectacle qui est médiocre ou le public qui est errant.
Je renvoie pour prolonger les débats au numéro Justice ou réparation du mois de mars 2024 de la revue Esprit et au Café des idées du 18 juillet qui est en ligne sur le site du festival avec la metteuse en scène et une partie de l'équipe de la revue ayant travaillé sur ce numéro. Face au silence de la loi, aux lacunes ou imperfections dans certains droits nationaux, les auteurs et autrices de théâtre dans cette 78e édition entendent interpeller leur public et les législateurs sur des questions aussi diverses que le genre, le droit du travail ou encore la fin de vie. Même si le théâtre ne changera pas le monde, comme le disent Inès Barahona et Miguel Fragata dans Terminal, dont on parlera dans le prochain et dernier podcast à Avignon, il vient incontestablement contribuer au débat public et politique sur les défis juridiques d'aujourd'hui. En cette année, où la langue espagnole était à l'honneur dans le IN, plusieurs auteurs et metteurs en scène d'Amérique latine, en particulier d'Argentine, ont proposé des spectacles très personnels, interpellant notamment leurs législateurs sur les évolutions récentes et négatives relatives aux problématiques LGBTQ+, ce qui permet de pointer les apories ou déficiences du droit face à des situations humaines d'une grande précarité et vulnérabilité. Dans le IN, on citera les artistes argentins Tiziano Cruz et Lola Arias. L'on sait que le contexte politique en Argentine est particulièrement tendu depuis l'élection de Javier Gerardo Milei le 10 décembre 2023 et la situation économique catastrophique. En outre, les conditions de vie des personnes appartenant à la communauté LGBTQ+, s'est particulièrement dégradée alors que le pays avait été sur le plan législatif un pionnier sur ce continent, voire même dans le monde, depuis plus d'une décennie, avec d'une part la loi sur l'identité de genre en 2012, la loi sur le mariage pour tous en 2020 et enfin en 2021 l'adoption d'une loi réservant aux personnes transgenres un quota de 1% des emplois publics. Depuis l'élection du nouveau président, de nombreuses abrogations ont été prononcées pour engager non seulement une dérégulation de l'économie, mais aussi des réformes épouvantables dans le milieu de la culture, à commencer par la suppression de son ministère ainsi que celui des femmes, mais également avec le plan du président prenant la forme d'un décret dit de nécessité et d'urgence, visant notamment parmi les 600 mesures, toutes plus contestables les unes que les autres, la loi protectrice des personnes transgenres. Les licenciements de fonctionnaires ont particulièrement et déjà visé les femmes transgenres, les renvoyant inévitablement à l'activité de prostitution. C'est ce contexte que Los Días Afuera, le spectacle annoncé comme musical de Lola Arias, entend traiter. Elle a réuni des personnes cisgenres et transgenres qui ont été incarcérées pour des faits de prostitution et de stupéfiants. Même si la qualité musicale et de danse sont décevantes, les expériences de vie et l'implication des artistes amatrices transmettent avec efficacité leur résilience face à des systèmes carcéraux et sociaux inadaptés à la précarité d'une majorité de la population argentine, au sein de laquelle les minorités de genre survivent avec peine. Tiziano Cubas va plus loin, l'air de rien, dans l'interpellation en partant de sa propre histoire personnelle d'autochtone, homosexuel, originaire du nord de l'Argentine, dans ses deux spectacles présentés dans le IN, Soliloquio et Vaikei Kuna, qu'il a joué tous deux au gymnase du lycée Mistral. Dans le premier, Soliloquio, après une déambulation chantée et dansée avec des personnes de la communauté tzigane d'Avignon dans les rues de la ville, le performeur argentin souligne non seulement les discriminations dont souffrent les personnes non hétérosexuelles, mais il les replace dans un contexte plus global, dépassant la situation propre à son pays, en proie au racisme, à l'homophobie et à la pauvrophobie qui sont souvent cumulées, en s'attaquant aussi à la mondialisation, héritière d'une forme de colonisation toujours présente. Ses propositions artistiques surprenantes, dans des espaces scéniques minimalistes, utilisant essentiellement des vêtements ou accessoires du folklore argentin, mais aussi une partie documentaire pour le second spectacle avec un film tourné lors de son retour au pays et un partage du pain avec le public qui rendent ses propositions vraiment singulières et finalement assez efficaces pour mieux saisir les obstacles pluriels que connaissent les communautés LGBTQ+ de ce pays. Dans le off au 11 Avignon, c'est un texte de Sarita Vincent Guillot, cicatricielle, qui vient aborder une autre question liée à la fois au genre et au sexe, pour laquelle le législateur est encore plus en retard que dans les sujets de genre précédemment évoqués. Dans la mise en scène de Yann da Costa, moins surprenante ou inventive que son précédent spectacle est détaché, Vincent Bellet, accompagné sur le plateau par la musicienne Anne-Laure Labaste, expose la vie de Sarita, née monstre, pour reprendre la terminologie utilisée par des médecins et par sa mère. Il s'agit d'un témoignage qui permet d'aller à la rencontre de la communauté intersexe, c'est-à-dire des personnes qui sont nées avec une anatomie sexuelle, des organes reproducteurs et ou un ensemble de chromosomes qui ne correspondent pas à la définition type d'un homme ou d'une femme pour reprendre la définition onusienne. D'un ton monocorde sont évoquées les mutilations génitales et tortures infligées, pour reprendre ces termes, tout au long de la vie d'une personne intersexuelle, dont les souffrances et difficultés de tous ordres sont non seulement encore méconnues du grand public, mais également pour l'instant largement oubliées des réformes en matière de genre et de sexe dans le droit français et dans d'autres systèmes législatifs. La pièce met ainsi en cause tant les dits torsionnaires appartenant au personnel médical que la société assignatrice et les institutions et personnalités politiques qui ignorent largement les difficultés et souffrances très spécifiques que ces personnes affrontent quotidiennement. Les incohérences et limites législatives sont également interpellées dans des domaines très éloignés du précédent, à savoir d'une part le droit du travail et d'autre part la fin de vie. Dans son dernier spectacle, Lacrima, Caroline Nguyen s'est intéressée au monde des brodeuses, où se distinguent particulièrement les ateliers français et indiens auprès des maisons de haute couture. Ce spectacle, qui s'est joué dans le IN au gymnase du lycée Aubanel, est pour la directrice du TNS l'occasion de souligner les conditions de travail longtemps rétrogrades des travailleuses, en l'occurrence les dentelières d'Alençon, qui ont fini par se constituer en syndicat, mais qui semblent extrêmement privilégiées par rapport à leurs homologues masculins de Mumbai. Même si le propos sur la mondialisation est assez connu ou convenu, la vertu du spectacle est d'attirer l'attention sur les paradoxes du développement soudain des conventions internationales extrêmement exigeantes en termes d'éthique, s'agissant des conditions d'emploi en particulier des travailleurs de pays tiers, notamment les pays émergents comme l'Inde, et la violente hypocrisie dans les rapports de force économiques exercés par les pays occidentaux, dont les législations ont été longtemps très peu protectrices de la santé de leurs propres travailleurs dans ces secteurs d'artisanat. Enfin, il faut parler d'Exit, de Karine Dubernay et Benjamin Gauthier, qui s'est joué au Théâtre du Train Bleu dans le Off. Sur le sujet ô combien complexe et d'actualité de la fin de vie, la pièce est un bijou de finesse, d'humour, d'inventivité et de sensibilité. Dans la mise en scène, des personnes précitées, qui ont adapté le documentaire suisse éponyme de Fernand Melgar, du nom de l'association dont les bénévoles assistent depuis 20 ans en Suisse romande, des adhérents refusant d'être maintenus artificiellement en vie à la suite d'un accident, d'une maladie incurable ou de vieillesse avancée, les quatre comédiens, qui jouent plusieurs personnages sans jamais quitter le plateau, excellent sans exception pour transmettre toutes les problématiques, ambiguïtés et controverses sur l'aide à mourir, autrement appelé le suicide assisté. Quelle que soit sa propre conviction avant d'assister au spectacle, et en dépit de l'allègement savamment orchestré par l'humour constamment distillé, on ne peut qu'être ébranlé à la sortie. Aucun tabou n'est épargné, que ce soit dans les registres philosophiques, économiques, ou encore dans la mobilisation des concepts juridiques, mais aussi des plus triviales préoccupations des malades ou de leurs proches, jusqu'à la toute fin, c'est-à-dire, comme l'écrivait Paul Ricoeur, du vivant jusqu'à la mort. Si la Suisse fait figure de pionnier et que de nombreuses commissions parlementaires ont travaillé des textes en vue de proposer des réformes législatives prévoyant une possibilité d'aide active à mourir, force est de constater qu'en France comme ailleurs, le sujet divise toujours, ce qui est heureux, mais que les amalgames et les confusions avec l'euthanasie ou les soins palliatifs qui peuvent être destinés à accélérer la fin de vie sont encore largement partagées. Le choix, la liberté, le consentement, l'autonomie, la dignité face aux interdits dont une société doit se porter garante et la valeur de la vie sont les données d'une équation quasiment impossible à résoudre pour un législateur et qui est pourtant interpellée par la société régulièrement sur le sujet. En France, le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, présenté le 10 avril 2024 en Conseil des ministres, dont l'examen est pour l'instant suspendu en raison de la dissolution récente de l'Assemblée nationale, prévoyait entre autres un dispositif qui va même plus loin que la législation suisse, puisqu'il aurait permis de mettre à disposition d'une personne qui le demande, dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, avec des douleurs réfractaires ou insupportables, une substance létale que le demandeur peut s'administrer lui-même ou se faire administrer par une personne tierce, personnel médical proche ou personne volontaire. Cette possibilité de l'intervention active d'un tiers qui n'est pas admise en Suisse, comme l'explique très bien la pièce, a déjà fait l'objet d'une opposition lorsque le projet de loi a été examiné en première lecture devant l'Assemblée nationale. Le spectacle Exit ne propose ni modèle ni solution idéale, mais a le mérite de présenter toutes les questions, sans pathos ni apologie, avec intelligence et bienveillance pour les intéressés, c'est-à-dire tous les humains, potentiellement tous concernés, comme sujets, proches ou responsables. Le troisième épisode des In Ideof de Droite en scène saison 5 est terminé. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur le site internet amicusradio.net, rubrique Droit en scène. Merci à Léobardo Arango pour la coordination et la réalisation. Merci à Cécile Hertz pour la diffusion. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rater aucun épisode. Et rendez-vous dans quelques jours pour le dernier podcast en direct de la 78e édition du Festival d'Avignon.